En toute liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle, au service citoyen et de la démocratie. C'est notre credo ici, hein, l'information plurielle, l'information certifiée, l'information vraie et avec la pluralité des opinions sur nos antennes, sur ce plateau et de En toute liberté. Ce soir, nous recevons pour vous un jeune politique brillant. Il est membre de l'URD, hein, il était très convaincu des idéaux du parti de la poignée de la main, hein, le parti de feu, Soumaïla Cissé. Il est le secrétaire politique de l'IRD, hein, vous l'aurez compris. Notre invité est Mamadou Abdoulaye Diko, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Attaïra.
Merci de répondre à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
C'était un plaisir, de partager cet entretien avec vous. Hein. On rappelle aux téléspectateurs que lors du premier numéro de l'éditorial là, qui portait sur « Quel avenir pour l'IRD ?» intitulé « Quel avenir pour l'IRD ?» vous avez fait un droit de réponse que nous avions partagé sur les réseaux sociaux. C'était un bon droit de réponse pour dire que la démocratie, c'est vraiment la diversité des opinions. Vous avez apporté votre droit de réponse pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur tel argument de l'éditorial qui parlait de conviction au niveau de l'URD. Donc ce soir, l'occasion de trouver pour parler justement de l'URD, votre parti. L'URD et vous, parlez-nous-en. Quelle est votre histoire avec l'URD?
Merci beaucoup, M. Mohamed Attaher Alidou, pour cette invitation. Bonsoir à vos auditeurs, merci. Bonsoir à vos téléspectatrices, bonsoir à vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce moment-là avec vous. Ceci dit, l'URD, mon histoire avec l'URD, je dois dire que j'ai été charmé par l'offre politique et le leadership qu'incarnait feu Soumaïla Cissé. J'ai parcouru son programme politique, son projet de société. J'avoue qu'il incarnait à mes yeux les préoccupations majeures des populations maliennes. En plus de cela, il incarnait un certain leadership qui inspirait confiance, leadership qui est passé par plusieurs moules. Vous vous souvenez, tout le parcours qui fut le sien. Il a été un homme très combatif dans l'adversité. Il a été un homme très engagé, très persévérant. Et toutes ces valeurs et toutes ces vertus qu'il incarne m'ont séduit et m'ont conduit à faire le choix de l'URD. Je suis là-dedans depuis 2016. Je suis à l'aise là-dedans, malgré tout ce que vous savez. J'essaye avec une force de conviction qui est la mienne, de partager mes idées, de faire en sorte qu'elles triomphent. Okay. Mais si, par extraordinaire, elles ne sont pas retenues, j'ai toujours cette humilité de me plier à la volonté majoritaire des camarades.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'URD, l'Union pour la République et la Démocratie, le parti de feu, créé par feu Soumaïla Cissé? C'était quand même l'URD, c'était la grande unité. On n'a jamais senti une déchirure au sein de l'URD. Mais juste après la mort de Soumaïla Cissé, qui a surpris plus d'un, qui a été emporté par le Covid-19, tout de suite, il y a eu les querelles de positionnement, les anciens alliés se regardaient en chien de faïence, des amis d'hier, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, M. Ducot?
Non, j'avoue qu'en évoquant cette question, ces questions-là, je les évoque avec beaucoup d'émotion. D'abord, je rappelle que ce n'est pas la première cassure qu'a connue l'URD. Je rappelle que l'APR de Omar Ibrahim Touré est sorti des entrailles de l'URD. Donc, ce n'est pas une première. Celle-là est assez regrettable parce qu'il n'y avait pas de divergence profonde, majeure, idéologique, qui opposait les uns et les autres. Vous avez parlé de positionnement. C'est regrettable que les querelles de positionnement conduisent à la cassure d'un parti. Un parti politique, c'est par essence un espace de débat pluriel, d'opinion plurielle. Nous sommes différents. Nous sommes divergents parfois. Nous avons le droit d'être différents parce que nous sommes d'horizons divers. Nous sommes de conditions socio-économiques diverses. Nous sommes de cultures différentes. Qu'on soit différent, qu'on soit divergent, c'est normal dans la marche d'un parti politique. Mais qu'on en arrive pour ce peu de choses, je considère que ce qui nous divise, ce qui nous a opposés, n'est pas fondamental parce qu'il n'y a pas de fracture idéologique en tant que telle entre nous. Vous l'avez rappelé.
Oui, il n'y a pas de fracture idéologique, mais justement, dites-nous, la fracture se trouvait à quel niveau?
Je ne sais pas, je m'interroge toujours sur les mobiles qui ont pu conduire les uns et les autres à être dans des positions extrêmes du genre, jusqu'à sortir, aller créer un parti, c'est leur droit, okay, évidemment.
On va en parler, parce qu'il y a un nouveau, puisque vous parlez des entrailles que l'APR est sorti, l'EDR est aussi sorti des entrailles de l'URD, on va en parler. EDR, c'est le nouveau parti dirigé par Salikou Sanogo, l'ancien président de l'URD. L'EDR, c'est Espoir pour la démocratie de la République. On essaie de faire une observation, on voit juste que c'est le E qui a sauté pour être remplacé par eux, et puis là, on a E2R au lieu de URD, quoi.
Tout ça pour vous dire à quel point nous sommes proches.
Démocratie, République sont restés. Maintenant, ça, de l'Union, on est allé.
Nous partageons des valeurs communes.
De l'Union, on est à l'espoir.
Nous partageons des valeurs communes. Oui. Certains d'entre eux ont cheminé il y a plus de 30 ans, d'autres il y a 20 ans. L'URD, c'est quand même 20 ans. C'est un parti créé en juin 2003. Donc, bientôt. C'est le 20e anniversaire. Des valeurs communes, nous les avons partagées ensemble. Notre attachement indéfectible à la République. Oui. Vous avez vu? Notre attachement à la démocratie. Oui. Tu retrouves le R et le D à tous les niveaux. Okay. C'est la preuve que peu de choses nous opposaient. Oui. Moi, je suis attristé.
Oui, c'est ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, les cadres de l'URD, pour justement éviter cette déchirure, cette cassure, vous parlez même de fracture. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas pris les devants pour arrêter ça?
Vous savez,
parce que quand on a fait un éditorial pour dire attention, l'IRD, ça tangue, l'IRD, attention, sauvez un peu la maison qui est sur le point de tomber, vous avez fait un droit de réponse. Mais justement, à l'interne, entre vous, qu'est-ce que vous avez tenté pour justement rapprocher les positions?
Vous savez, l'éditorial dont vous parlez, j'ai spontanément réagi, pas pour vous apporter une quelconque contradiction, mais pour rétablir les faits. Okay. Pour dire que les arguments mis en avant, d'ici et ça et là, qui consistent à dire que certains d'entre nous sont des vendus au profit de je ne sais quel projet, n'étaient pas vrais. Okay. C'est ça l'objet de mon... Okay. Ce qui nous a opposés, c'est un congrès, la tenue d'un congrès extraordinaire qui avait pour seul but, seul mobile, de remplacer le défunt président Soumaïla Cissé. Okay. Vous convenez avec moi que notre président a regretté...
Est-ce que ce n'était pas très tôt?
Ça dépend de la
grille. L'émotion était encore là. Non, tout de suite, vous pensez à des visées électoralistes? C'est ce que l'opinion avait compris.
Vous savez, chacun a sa grille d'analyse. Oui. Un grand parti, un mastodonte politique comme l'URD ne peut pas prospérer dans une présidence intérimaire. C'était ma conviction et ça l'est toujours. Vous avez dit qu'il est décédé le 20 décembre 2020, le 25 décembre 2020, paix à son âme. Le congrès qui a été le nôtre s'est tenu le 16 janvier 2022. Donc c'est un faux débat. C'est une contre-vérité de dire que nous n'avons pas attendu. Les avis étaient partagés. Chacun avait ses arguments. J'appartenais à ceux qui pensaient que l'URD se doit, surtout qu'il y avait des enjeux majeurs qui pointaient à l'horizon. avant le report des élections, elle était prévue en 2021. On devait sortir de la transition. Okay. Donc, un parti comme l'URD se devait de créer les conditions de sérénité pour faire face à cet enjeu électoral. On ne peut pas parler de sérénité quand on est dans une présidence intérimaire. Nous avons souhaité, et nos textes, notamment l'article 58 de nos statuts, le prévoit expressément, qu'on aille à un congrès extraordinaire, que tout le monde était libre d'être candidat, hein, y compris celui qui assurait l'intérim. Vous savez, vous avez posé une question fondamentale. Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas arriver à ce qui est arrivé? Je suis de ceux qui sont régulièrement montés au créneau pour alerter, pour dire faisons attention. Nous n'avons pas le droit de casser le parti. Nous pouvons être divergents. Nous devons même être divergents et différents. Mais n'ont pas le droit d'attenter à l'unité du parti. Je l'ai dit sur tous les droits. Malheureusement.
Ce que vous avez fait, entrepris des démarches individuelles.
Des démarches.
Vous connaissez les maisons.
Des démarches individuelles et structurelles.
Okay.
Une commission spécialement a été créée avec comme seul but de démarcher individuellement tous ceux et toutes celles qui, de par leur aura, de par leur personnalité, pouvaient faire en sorte que les esprits se retrouvent. À cet égard, plusieurs visites ont été rendues à la veuve de Feu Soumaïla Cissé, que je salue au passage, à d'autres cadres émérites du parti. Parce qu'ils sont de tous les bords.
Vous êtes tous battus, hein, peut-être.
Pour ils sont. Le cette, commission, oui. cette commission, je dois l'avouer, a engrangé des résultats. Okay. Il y en a qui ont trouvé que le combat n'était pas la peine d'être mené. Okay. En tout cas, ce n'était pas le combat, l'enjeu majeur.
Oui.
Il y en a qui ont dit nous sommes dans une procédure judiciaire, attendons l'épilogue. Okay. Quand on va en sortir, nous allons voir.
Oui.
Et il y en a qui sont revenus. À la réunion dernière, nous avons arrêté des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, qui sont revenus parce qu'ils ont estimé que l'URD, c'est leur patrimoine à eux. Okay. C'est leur combat de plusieurs années.
Ils ne peuvent pas l'avoir. Mais l'autre camp, peut-être vos détracteurs, le camp de Saliku à Sanogo, le camp de Saliku à Sanogo dit clairement que vous voulez ouvrir la maison URD à d'autres aventuriers qui veulent venir prendre le leadership. Qu'est-ce que vous répondez?
Non, moi, j'ai...
On parle même de candidature. On a parlé de candidature de certaines personnalités. Je pense à Boubou Cissé, à Igor. Donc, c'était leur argument. Ils disaient que vous, votre objectif, c'était de donner le parti, de changer la présidence pour que Boubou Cissé ou un autre candidat se présente aux couleurs de l'URD. Qu'est-ce que vous répondez?
Je crois que les choses sont assez sérieuses pour qu'elles ne soient pas analysées.
Est-ce que vous avez entendu au moins
j'ai cette... entendu ça et j'ai apporté régulièrement et constamment des réponses à des arguments pareils.
D'accord.
Boubou Cissé. Je vais vous dire ce que je pense de ces deux personnalités-là, Boubou et Mamadou Igor Diarra. Moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour leur parcours. Parcours politique, parcours universitaire, parcours, administratif. Tout le monde voudrait avoir ces deux personnalités, ces deux figures de la scène publique nationale dans ses rangs. Ils ont fait le choix de venir à l'URD en homme libre. Comme d'autres l'avaient fait. L'URD est un parti accueillant, est un parti ouvert. La preuve, ceux qui ont poignardé Soumaïla, qui ont été quelque part à l'origine de ceux qui ont plombé son destin présidentiel. Soumaïla était avec eux. C'est vous dire que le label URD, c'est un label ouvert.
Qui sont ceux qui ont poignardé?
Je ne voudrais pas nommer des gens. Vous êtes un observateur.
Non, on ne comprend pas votre clin d'œil.
Vous êtes un observateur.
Le téléspectateur ne comprend pas vos allusions.
En 2002,
il
y en a qui se sont organisés pour combattre Soumaïla alors qu'il était candidat officiel de l'ADEMA. Des gens de l'ADEMA.
Okay.
Après, se sont retrouvés avec lui dans des plateformes au sein même du parti. Il est ouvert à eux. Vous savez, il ne faut pas marcher tout le temps en regardant les rétroviseurs. Boubou Cissé, Mamadou Igor, c'est des personnalités maliennes, c'est des citoyens maliens avant tout, qui ont le droit de faire partie du parti de leur choix. Et moi, en tant que URD, je dois le dire, en tant que citoyen, j'éprouve beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir d'appartenir à un parti au sein duquel militent ces deux personnalités.
D'accord. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces Maliens qui sont nombreux, qui disent que Soumaïla Cissé est parti avec l'âme de l'URD? que l'URD est là, ou est-ce que où est l'âme de l'URD que Soumaïla est parti avec?
Oui, l'âme de l'URD, je crois qu'il faut sortir souvent des cultes de la personnalité.
Okay.
Soumaïla, c'est une figure emblématique de la scène politique publique nationale. C'est un fait, c'est incontestable. Mais c'est un humain. Après lui, le Mali, lui-même l'a dit, le Mali va continuer, l'URD va continuer. Évidemment, avec tout ce qu'il a incarné en termes d'autorité, en termes de responsabilité, en termes de capacité de meneur d'homme, sa disparition créera sans doute un vide. Nous l'avons connu. Nous l'avons connu. Perdre un monsieur comme Soumaïla, dans les circonstances dans lesquelles nous l'avons perdu, ça conduit toujours à une espèce de désarroi, d'aventure. Mais nous sommes des humains. Nous devons nous réorganiser. À l'aune de la disparition, justement, de cet homme exceptionnel qu'est Soumaïla Cissé. C'est ce que nous sommes en train de faire.
D'accord. Donc, est-ce que
l'âme
c'est...
de l'URD
oui,
reste à l'URD.
D'accord.
Le leader est parti,
oui.
Mais les idéaux
oui.
qu'il a portés, qu'il incarne,
sont toujours...
continuent d'être défendus
D'accord.
avec brio.
Entre EDR et l'URD, est-ce que vous regardez toujours en chien de faïence ou désormais vous avez fait la paix des braves? Est-ce
Moi...
que vous êtes même allé, hein, lors de l'ère... c'était lancement hein, de
non,
nouveau
c'était...
parti. Est-ce que vous étiez hein, de la place?
Non, c'était une assemblée, je crois, consultative.
Okay.
Je crois qu'un congrès est annoncé pour...
D'accord.
Non, vous savez, moi, je partage beaucoup de choses avec beaucoup
oui.
de responsables de,
okay.
de EDR,
oui, oui.
qui n'est pas encore un parti, hein,
oui,
disons-le
d'accord.
clairement.
Okay.
En particulier, son premier président.
D'accord.
Bon. On ne va pas dire premier président, celui qui incarne
ouais, celui que vous avez combattu.
Le professeur. Non.
Ouais.
L'avons pas combattu.
Ouais.
Il faut que
vous l'avez contesté.
L'avons... Non, nous ne l'avons pas contesté.
Okay.
Nous avons souhaité juste
ouais.
que notre parti se dote d'un président en remplacement de Feu Soumaïla Cissé.
Okay.
Lui, il était premier vice-président. Il n'entendait pas de cette oreille. C'est son droit.
Okay.
Les textes le prévoient expressement. Il a sa lecture des textes.
Oui.
Nous avons la nôtre. Mais moi, je le dis,
oui.
je l'ai dit par le passé sur plusieurs plateaux,
oui.
que le professeur Salikou, moi, je lui voue une déférence singulière.
Okay.
Pour la petite histoire,
oui.
quand moi, je venais à l'URD, je connaissais très bien le domicile de Soumaïla Cissé.
Oui.
Mais tu sais, mon cher ami, chez qui je suis allé?
Non.
Je suis allé voir le professeur Salikou Sanogo à son bureau à l'ESTM.
Okay.
Pour dire, professeur, monsieur le ministre, moi, j'ai appris à vous observer dans la vie publique qui a été la vôtre, j'ai vu un homme d'une très grande qualité, un homme d'une très grande probité. Je souhaite faire partie du parti dont vous êtes membre. Ça, si vous avez l'occasion de le voir,
oui.
vous pouvez lui témoigner.
Vous
c'est vous
question.
Dire à quel
oui.
point
oui.
c'est un monsieur pour lequel
D'accord.
j'ai un immense respect.
Okay.
Salikou, c'est
oui.
un cadre exceptionnel,
oui.
il faut l'avouer.
Oui.
Mais
oui.
nous avons divergé
oui.
sur des approches, mais nous restons...
Oui.
Il reste un père pour
oui.
moi, il reste un leader
c'est possible.
Pour moi, il
reste
un modèle.
On est sur le terrain politique. C'est possible que dans l'avenir, que ERD se retrouve pour des alliances, puisque vous vous connaissez déjà.
Oui.
Donc c'est simple de
je
faire des
dit
alliances.
Que c'est regrettable.
Ouais.
Qu'on...
Faire,
je
c'est
vois que...
que vous allez voilà, trouver un moyen.
Je vois
de...
que l'essentiel de l'émission porte
non,
sur
non,
ce
non,
sujet.
Non, 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 on va.
Alors que,
oui,
bon,
oui.
je ne m'attendais
non,
pas
va,
à ça,
non,
honnêtement.
Non, 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 on va,
j'avais
voilà,
espéré en
oui.
venant ici.
Non, on va parler du Mali. Non, on va parler du Mali.
On va sortir de nos.
Non, 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 c'est
je crois que c'est plus important qu'on parle du Mali.
On a déjà fini avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver pour d'autres alliances. Maintenant, parlons maintenant de l'actualité, le référendum constitutionnel. L'IRD sous Soumaïla Cissé, vous avez été dans la rue pour dire non à la révision constitutionnelle. Hein, c'était autour de la plateforme en terre, Bana touche pas à ma constitution. Vous avez notamment évoqué la violation de l'article 118 de la constitution. Aujourd'hui, l'IRD, vous demandez ouvertement aller voter. Même oui, on a vu quelques campagnes, c'est-à-dire sur les réseaux, même si la campagne n'est pas ouverte, pour demander à voter oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Bon, moi, je n'appellerai pas à ce stade-là de voter oui.
Oui,
non,
on a vu une campagne, on a vu une photo de
je
votre
suis,
président.
Je suis
Wagnon Koulibaly, où clairement, on comprend tout de suite que
je suis un républicain.
Oui.
J'attends l'ouverture
oui.
de la campagne officielle pour donner ma consigne de vote. Mon parti, l'URD,
oui.
a analysé l'offre qui est faite, l'avant-projet d'abord. J'ai eu l'honneur de faire partie d'une commission créée au sein du parti qui a travaillé sur l'avant-projet.
Okay.
Ensuite, un projet a été proposé.
Oui.
Un de nos cadres brillants, M. Khalilou Samake, maire de son état, a été choisi pour faire partie de cette commission de finalisation. Okay. Il nous a fait des propositions, l'URD les a adoptées.
Oui.
Et les a envoyés comme contribution au projet. Donc l'URD est partie prenante de ce nouveau projet de constitution.
Okay.
Pourquoi? Parce que le projet, personnellement, j'y adhère parce qu'il comporte des avancées majeures.
Okay.
Je vais parler, entre autres, de la création de la deuxième chambre, le Sénat, qui est en rapport avec la mise en œuvre de l'accord d'Alger, l'accord issu du processus d'Alger. Je vais parler de la création de la Cour des comptes, qui est une exigence communautaire de l'UEMOA. Je vais parler de la valorisation de nos langues nationales, qui sont désormais des langues officielles. Je vais parler de la remise en surface du rôle stabilisateur, du rôle régulateur des légitimités traditionnelles, qui désormais, constitutionnellement, ont un rôle même dans l'administration de la justice. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une espèce de défiance vis-à-vis de la justice étatique. De tout temps, quand il y a des problèmes entre les Maliens, les gens vont vers ces légitimités, chez l'imam, chez le chef de quartier, pour régler leurs problèmes. Nous avons la prise en compte de l'handicap, nos concitoyens vivant avec l'handicap. Nous avons aussi, dans ce nouveau projet, la consécration sans équivoque que le mariage, c'est entre une femme et un homme. J'ai entendu des arguments qui consistent à dire que c'est des questions qui devaient relever de la loi. Oui, la loi va les expliciter.
Okay.
Je rappelle simplement
que
la Constitution, elle a vocation à énoncer les grands principes. Les lois organiques, les lois ordinaires viendront compléter, expliciter ce qui reste. Pour toutes ces raisons, pour toutes ces avancées, je pense que le projet de Constitution est une très bonne chose. Mais il y a une autre chose qui me paraît aussi importante. Permettez-moi de le rappeler.
Là, vous ne faites plus allusion à l'article 118.
Je vais en parler. Je vais en parler.
Oui.
Ce nouveau projet, de mon point de vue, donne le top départ du retour à l'ordre constitutionnel. On crie sur tous les toits. Il faut que le Mali revienne à la légalité constitutionnelle. Nous ne pouvons pas nous éterniser dans une transition. Ça fait quand même trois ans que nous y sommes. Ce référendum, de mon point de vue, va donner le point de départ, le tocsin pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous parlez de l'article 118. L'article 118, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la révision, l'initiative de révision constitutionnelle est portée concurremment par le président de la République, eux, les députés. Il ne peut y avoir de révision lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Oui.
Il s'agit bien entendu d'une question juridique. L'exégèse que j'en fais, c'est que nous ne sommes pas en face d'une révision. Nous sommes carrément dans l'élaboration d'une nouvelle constitution.
Okay.
Si le président et ceux qui ont proposé ce projet nous avaient parlé d'une révision, il est évident que cet article serait opérant. Aujourd'hui, je le trouve inopérant au regard de l'enjeu. Nous ne sommes pas dans une révision.
D'accord.
Ça, c'est le juriste qui vous parle.
Okay. Nous sommes mais certains acteurs de l'appel du 20 février disent clairement que le président n'a pas qualité pour l'initiative d'une nouvelle constitution.
Bon.
Qui n'a pas été élu, qui n'est pas allé au suffrage universel.
Je peux comprendre.
Suffrage universel.
Je peux comprendre ces arguments. Mais toutes les constitutions qu'on a connues, y compris celle de 92, ceux qui l'ont élaboré n'étaient pas issus du suffrage universel. En 1974, Moussa Traoré, quand il proposait sa constitution, il n'était pas issu du suffrage universel. Il y a ce que l'on appelle la jurisprudence. En droit, il y a ce que l'on appelle la jurisprudence. Vous savez, la constitution, c'est une matière qui n'est pas forcément juridique, qui est fondamentalement consensuelle. Quand les acteurs...
Est-ce que vous avez l'impression que cette constitution, justement, est suffisamment consensuelle?
Bon...
vous avez l'impression.
J'ai l'impression.
Au niveau de l'URD.
De par le processus
qui
a conduit à son élaboration.
Okay.
Rappelez-vous, il y a eu ce que l'on appelle les assises nationales qui ont posé les jalons, qui n'ont pas été dont tout le monde n'a pas participé, évidemment.
D'accord.
Mais le consensus, ce n'est pas l'unanimité.
D'accord.
Le consensus, aujourd'hui, vous voyez, au sein de l'opinion, vous avez dit, les gens ont commencé déjà à donner des consignes de vote avant même l'ouverture de la campagne.
J'ai parlé des gens, je parle de votre président, Gouagnon.
Nous ne sommes pas les seuls.
Koulibaly.
Nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres.
D'accord.
Il y a d'autres acteurs politiques, acteurs sociaux.
Donc j'imagine hein, à travers votre argumentaire que l'IRD dans les jours à venir va demander hein, certainement vous allez clarifier votre position en appelant certainement ouvertement à voter oui pour le référendum.
Moi, je suis profondément républicain.
Oui.
Respectueux de la loi.
Oui.
La loi ne me permet pas aujourd'hui de donner.
J'ai dit des jours à venir. J'ai dit.
On verra.
J'ai dit les jours à venir.
On verra.
Quand on sera dans la campagne.
On verra.
Finalement qu'on va se retrouver ici pour d'autres émissions.
On verra.
Voilà. Entre le oui et le non.
On verra.
Pendant la
campagne. Le moment venu,
pendant la campagne référendaire.
L'URD assumera sa position, moi avec.
D'accord. Maintenant, parlons toujours de l'actualité. Hein. Il y a eu une enquête des Nations Unies hein, sur les événements à Moura, où hein, et, les Nations Unies chargent hein, les FAMA, les militaires maliens, d'exactions sommaires sur des civils. Vous avez lu le rapport. Justement, quel est votre... Vous venez même de Douenza, donc vous êtes de Douenza. Quelle est votre lecture de ce rapport? Le gouvernement malien qui parle de rapport biaisé, vous... Quelle est votre lecture des événements de Moura et du rapport des Nations Unies sur ce qui s'est passé à Moura?
Vous savez...
L'armée malienne qui parle de terroristes et dans le rapport, on dit que ce sont des civils, plus de 500.
Vous savez, avant de commenter ces questions-là, qui sont d'une sensibilité extrême, je voudrais rappeler quelque chose qui est constant chez moi. C'est le soutien indéfectible, la solidarité sans faille à l'endroit de nos forces armées nationales qui abattent aujourd'hui un travail extraordinaire pour la liberté de notre pays, pour que vous et moi et tous les autres, nous puissions vaquer tranquillement à nos affaires. De ce point de vue, l'armée nationale mérite respect, mérite encouragement, mérite soutien. Maintenant, il y a un rapport qui l'incrimine. Ce rapport, il vaut ce qu'il vaut. Je n'ai pas envie de le commenter. Je rappelle simplement qu'il a été produit par une des organisations les plus respectables, les plus sérieuses au monde, les Nations Unies, dont le Mali est membre. De mon point de vue, il appartient maintenant aux autorités gouvernementales de notre pays de se saisir de ce rapport, de l'analyser, de le diagnostiquer, d'en déceler éventuellement les insuffisances et les carences pour, in fine, donner la saine et bonne information à l'opinion nationale. Les enquêtes avaient été annoncées par le procureur militaire de Mopti. Je crois qu'il a fait un communiqué le 6 avril 2022. Donc, moins de 10 jours après les événements, la suite est toujours attendue. Vous savez, la nature a horreur du vide. Quand des choses d'une particulière, d'une exceptionnelle gravité, parce que les faits présumés dans ce rapport sont quand même graves.
Okay.
Donc, on parle d'exaction, on parle d'exécution sommaire, d'exécution extrajudiciaire, c'est grave.
Donc pour vous, le gouvernement malien doit prendre ou doit reprendre l'initiative, faire des enquêtes, suivre les responsabilités.
Je pense.
Parce que vous parlez jusque-là, un bon juriste, hein, parler de présumé un massacre.
Absolument.
Voilà.
Je souhaite que le gouvernement de notre pays sorte de la rhétorique habituelle qui consiste à être dans une escalade qui n'est pas du tout, de mon point de vue, productive. Les Nations Unies ont produit un rapport qui incrimine nos forces armées, qui sont professionnelles, qui sont respectueuses du droit humanitaire, qui peuvent avoir en leur sein, sans nul doute, des brebis galeuses, excusez-moi l'expression, des éléments incontrôlés, indisciplinés, qui ne sauraient refléter la discipline et l'institution militaire qu'est l'armée nationale. Je pense que le gouvernement devrait se saisir de ce rapport qui peut être une bonne base pour alimenter l'enquête qui nous avait été annoncée depuis le 6 avril par le biais de communiqué rendu public par le procureur militaire de Mopti.
D'accord. Depuis cette transition, depuis la première phase de la transition jusqu'à la 10e phase appelée la phase de rectification de la transition, on a comme l'impression que l'URD qu'on a connue n'est plus la même URD. On ne sent pas l'URD sur les questions d'international, c'est plutôt le silence au niveau de l'IRD. Qu'est-ce qui justifie ce nouveau positionnement?
Décidément, hein, l'émission, c'est vraiment le procès.
Non, ce n'est pas le procès.
On va y aller.
Je suis désolé que
l'essentiel soit consacré.
Alors que j'ai rappelé... Non, on ne parle pas de l'IRD. On a dit...
Son silence.
Par rapport à dire votre regard sur la marche de la transition.
Non, pourtant, ne sont pas silencieux.
Parce qu'on a envie de comprendre quelle est votre position aujourd'hui.
Notre position.
Est-ce que vous êtes du centre? Est-ce que vous êtes avec le gouvernement de la transition?
Est-ce que vous en connaissez, mon cher ami, un seul acteur de la vie publique, en particulier les partis politiques, qui ne soutient pas la réussite de la transition? Il n'y en a pas. Nous sommes la transition, c'est le moment, ce n'est pas un moment de clivage partisan. Nous devons rester focus sur ces objectifs. Ces objectifs, ils sont connus. Travailler au retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça l'objectif principal d'une transition. Qui est une période d'exception, d'accident, si tu veux. L'URD, dans le cadre de cette transition, appuie, soutient le retour à l'ordre constitutionnel, soutient la réussite de cette transition.
Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Quel est le bilan? Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui, à mi-parcours déjà? Qu'est-ce que vous pensez?
Vous savez, le bilan...
C'est à la fin?
Je pense. Aujourd'hui, il y a des actes concrets qui sont posés. Il y a le retour de la fierté nationale. Vous me direz que ça ne se mange pas. Il y a de plus en plus...
Ça flatte notre
orgueil.
Notre ego. Donc, c'est positif.
C'est positif. Mais ceci dit, il y a des difficultés que personne de bonne foi ne devrait nier. Il y a la vie chère, il y a les coupures intempestives qui peuvent s'expliquer, mais qui ne se justifient pas. Au XXIe siècle, l'électricité, ça ne devrait pas être un luxe. Pour une ville comme Bamako,
Par rapport au référendum, c'est-à-dire sur les aspects techniques, certains déjà émettent des doutes quant à la faisabilité du référendum constitutionnel. Est-ce que vous, le président de l'EJ, donne des assurances, mais certains disent que son assurance n'est pas rassurante? Vous, au niveau de l'URD, est-ce que vous pensez qu'on peut aller à cette élection référendaire?
En tout cas, moi, nous...
À la date du 18 juin?
Je l'espère. Et nous nous battrons. Parce que j'ai dit... Ce référendum, ne le ratons pas. Il est le point de départ pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour le retour même du Mali dans le concert des nations. Il faut y travailler. Tout le monde crie sur tous les toits, excusez-moi, il faut le retour à l'ordre constitutionnel. C'est un processus. Nous avons des élections, comment dire, le référendum est prévu pour le juin. Ensuite suivra l'élection communale. Ensuite suivront les élections... présidentielle, législative, jusqu'à... C'est un processus qu'il faut accompagner. Il faut accompagner les autorités en toute sincérité, en toute responsabilité. Il ne s'agira pas de faire du béni-oui-oui, mais d'être dans un accompagnement lucide, avec un bon sens du discernement, pour que le bateau Mali soit à bon port.
D'accord. Certains détracteurs disent que si cette constitution, cette nouvelle constitution, c'est justement peut-être pour contourner la charte de la transition et donner peut-être l'opportunité à des militaires qui veulent se présenter au pouvoir d'être candidats à la future présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez?
Vous savez, Maître Muntaka Tall, que je respecte et que j'admire beaucoup, a dit qu'il y a la politique... Il y a la science politique et il y a la politique fiction. Moi, je préfère faire de la politique. Ce que vous dites relève de la fiction.
Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la science fiction ou bien
il fait de la politique? Il fait de la politique. Et il a conseillé les Maliens de faire de la politique. Je crois que ce que vous dites relève des suspicions, des supputations.
Des hypothèses.
Analysons.
Quand on est en politique, la politique, c'est aussi des hypothèses.
La politique, c'est aussi et surtout gérer les réalités. C'est ce que Mitterrand a dit. Il ne s'agit pas de rentrer. Moi, je peux vous soupçonner d'être candidat à l'élection présidentielle. Ça apporte quoi au débat?
Sauf que je n'ai pas fait acte de candidature ou je ne fais pas des choses qui montrent, qui indiquent peut-être que je serai candidat.
Je ne sais pas à qui vous faites allusion. Mais je n'ai pas connaissance aussi d'un quelconque acte posé par lui, par qui que ce soit, allant dans ce sens.
Est-ce que vous aurez un candidat pour la future présidentielle?
Mais évidemment.
Vous aurez un candidat.
En principe.
Le débat va
nous avons toujours eu un candidat. L'URD a toujours eu un candidat. Il n'y a pas de raison que cette fois-ci, nous n'en aurions pas.
Vous pouvez prendre cet engagement pour dire que vous n'avez
pas... Je ne peux pas. Il y a un processus.
Mais c'est que sûr. Il y aura un candidat.
En principe, rien ne devrait l'empêcher parce qu'il y a un processus interne qui permet le choix d'un candidat.
Quelles sont vos chances sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'URD, ce n'est plus cette force montante. Encore, qu'est-ce que vous répondez?
Encore une fois, on revient.
Non, on parle de...
Encore une fois, on revient au même...
Non, on a envie de savoir. Vous savez, est-ce que vous avez toujours votre capacité de mobilisation?
La meilleure chose en la matière, c'est l'élection. Okay. Je ne peux pas aujourd'hui vous pronostiquer. Okay. Attendons de voir. Oui. En tout cas, notre parti, malgré sa crise, continue à divers endroits et pour diverses raisons de cristalliser l'espoir des Maliens, de beaucoup de Maliens. Je ne peux pas pronostiquer, je ne peux pas parier sur tel nombre de députés ou tel nombre de conseils communaux. Mais attendons de voir.
D'accord. Le Mali et la communauté internationale, parce que on a vu qu'avec cette transition, il y a eu un divorce diplomatique entre Bamako et son allié de toujours, la France. Et l'ambassadeur de France, Joël Maher, a été chassé de Bamako. Hein. Radio France Internationale, France 24, ont été aussi interdites d'antenne au Mali. Donc c'est la bruit diplomatique, même disons-le, le divorce diplomatique d'avec Paris.
Oui,
aujourd'hui,
c'est un constat.
C'est un constat. Oui. C'est le Mali et la France, et puis le Mali et le reste du monde.
Non, je crois que le divorce est entre les autorités maliennes et les autorités françaises, la politique française. Ce distinguo me paraît extrêmement important. On n'a pas divorcé avec la France. La France a toujours ses intérêts ici. Nous avons toujours les nôtres là-bas. Ils sont nombreux des Maliens qui sont là-bas, qui vivent, qui travaillent et qui participent à l'économie nationale française. Okay. Il y a des organisations françaises aussi, sociétés françaises qui sont là, qui participent à la création de la richesse dans notre pays. Ce divorce, il est diplomatique, comme vous l'avez dit. Mais les peuples, je crois, sont ensemble et c'est ce qui est important.
D'accord. Le Mali, certains diront que le Mali a laissé un maître, la France, pour accueillir et dans ses bras un autre maître. On pense à la Russie, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez?
Non, le Mali n'a pas de maître. Le maître du Mali, c'est le peuple du Mali. Le Mali a fait un choix que moi je salue, de diversifier ses partenaires. Il en a le droit, mais il appartient maintenant au Mali de savoir tirer l'épingle du jeu.
D'accord.
De faire en sorte que, en toutes circonstances, les intérêts supérieurs du Mali prévalent.
D'accord, nous sommes le 25 mai. Le 25 mai, c'est la journée à dire un hommage à l'unité africaine. Aujourd'hui, en ce 25 mai, et quel est votre message pour l'unité de l'Afrique et puis à Bamako des mouvements qui se lèvent aussi pour demander le départ de la MINUSMA, voilà, la force onusienne au Mali. Quelle est votre lecture un peu du 25 mai et de l'appel à dire au départ de la MINUSMA?
Par rapport au 25 mai, c'est un constat évident. Le monde est devenu incertain, le monde globalisé, où les plus forts cherchent toujours à tirer vers le bas les plus faibles. Il appartient à chaque pays de se défendre. Okay. De se défendre avec ses valeurs, avec ses forces, avec ses atouts. Et notre pays en a. Okay. Les atouts importants. Nous avons une histoire. Nous avons une histoire glorieuse. Okay. Nous avons un peuple travailleur et vaillant. Ouais. Je crois que c'est des atouts importants. Il est évident que l'Afrique ne se porte pas bien. Okay. Le coup d'État continue. Ouais. La famine continue. Ouais. L'insécurité frappe à toutes les portes.
Les guerres, les coups d'État.
Les guerres, les coups d'État, je l'ai rappelé. Ouais. L'Afrique ne se porte pas bien 60 ans après la création de l'unité africaine. Nous devons travailler. En particulier...
Est-ce qu'il faut aller vers des grands ensembles, par exemple?
Absolument. Oui. Ils existent déjà. Oui. La CEDEAO, l'UEMA, l'Union africaine. Ces grands ensembles existent, mais qui sont lourds. Okay. Il faut sortir des grands ensembles diplomatiques, où c'est les chefs d'État et autres, pour aller vers des grands ensembles de peuples. Il est important qu'on mutualise, que les cultures se rencontrent, qu'elles se frottent, qu'elles s'affrontent pour que l'Afrique, qui est reconnue comme étant l'avenir du monde, de par sa démographie, de par la richesse de son sous-sol, de par son positionnement géographique même, l'Afrique, c'est l'avenir. Il s'agira seulement de créer les conditions pour que les leaderships les plus éclairés viennent aux responsabilités publiques afin que tous ces atouts-là soient valorisés au bénéfice des peuples africains. Pour ce qui est de l'aménagement, j'observe avec beaucoup de peine ce débat qui n'est pas un de mon point de vue. L'aménagement, elle n'est pas venue ex nihilo. Elle a été invitée par des autorités de transition malienne à l'époque, conduite par le professeur Diokouna. Aujourd'hui, nous avons pour l'histoire, un président de transition. Il appartient aux autorités nationales, encore une fois, de réévaluer la présence de l'AMUNISMA. A-t-elle été efficace? A-t-elle atteint ses objectifs? Et de poser les vrais problèmes et de prendre la décision qui convient. Je considère que l'AMUNISMA, à bien des égards, n'a pas accompli tout ce qu'on attendait d'elle. Mais à bien d'autres égards, elle constitue un espoir pour des populations.
D'accord.
Pour quelqu'un qui est ressortissant de Douanza, vous l'avez rappelé, si aujourd'hui l'AMUNISMA devait quitter, j'avoue que ça crée une crise sociale au sein des populations. De ce point de vue, les gens diront que ce n'est pas sa mission. Si, c'est sa mission. L'AMUNISMA, c'est une mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali. Donc sa mission, elle n'est pas que sécuritaire, elle est humanitaire, elle est sociale, elle doit travailler à la sauvegarde des populations. Et qui dit sauvegarde des populations, il ne s'agit pas seulement d'aller se braquer entre eux et les terroristes, il s'agit aussi de leur offrir de l'eau, de leur offrir des soins de santé, de leur offrir des écoles, etc. Et l'AMUNISMA, à ce niveau, joue un rôle majeur qui remplace même l'offre étatique à ce niveau.
D'accord. On va justement donner la parole aux téléspectateurs dans la dernière rubrique de l'émission, rubrique questions directes des téléspectateurs, rubrique questions directes, le générique. On va prendre une ou deux réactions à notre invité Mamadou Abdoulaye Diko, secteur politique de l'URD. On parle des questions d'intérêt national. On interroge la gouvernance de la transition. Donc, si vous voulez rentrer en direct dans cette émission, le numéro de téléphone va s'afficher sur votre écran. Prenez le temps de juste vous éloigner juste de votre poste, de votre télé, pour qu'on puisse avoir une meilleure liaison téléphonique ici, dans le studio de Djoliba TV News. Le numéro est déjà affiché. Donc, on me signale qu'il y a un téléspectateur au bout du fil. Bonsoir.
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous êtes en direct.
Ah, Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va?
Bah, ça va. C'est l'incontournable.
Oui, l'incontournable, oui. Bonsoir.
D'accord. Bon, par rapport à votre invité.
Oui.
Il faut vraiment que l'on mette les choses sur les points sur les grilles.
Oui.
En 1968.
Oui.
Moussa Traoré.
Oui.
A suspendu la Constitution.
Oui.
Ou même a aboli la Constitution.
Oui.
En 1991.
Oui.
Amadou Toumani Touré.
Oui.
Avec les PTSP, ont aussi suspendu la Constitution.
OK.
Ce qui leur permettait d'élaborer une nouvelle Constitution.
OK.
Là où nous sommes aujourd'hui.
Oui.
La Constitution est en vigueur.
Okay.
Tout part d'elle.
Okay.
Donc, que les invités disent vraiment la vérité au peuple.
Ok. D'accord.
La Constitution.
Oui, rapidement. Walid, est-ce que vous avez une question rapidement?
Pardon?
Est-ce que vous avez une question? On a compris votre logique, votre raisonnement. Oui, est-ce que vous avez une question juste après le.
Mais la question, c'est de dire aux gens qu'en 68, la Constitution a été suspendue.
Oui.
En 91, ça a été suspendu.
OK. Et qu'en 2022,
en 2020, la Constitution reste telle.
OK, la Constitution n'a pas été suspendue et puis on parle de nouvelle Constitution. C'est ça votre question?
Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi.
Oui, oui. Non, on a bien compris. Vous avez une autre question, non?
Non, je n'ai pas de question, vraiment.
OK, merci. D'accord, merci Oye Al-Walid, qui est un fidèle téléspectateur de Djoliba TV News. Oye Al-Walid, ancien DECAP, au niveau de Abeibara. Il est un fidèle téléspectateur. Bonsoir. Bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir. Vous êtes en direct sur Djoliba TV News.
Oui, c'est un...
Allô?
Allô?
Oui, éloignez-vous un peu de votre télé et puis posez votre question.
Allô?
Oui, allez, oui, on vous écoute. Allez-y.
Voilà, mais c'est... J'ai parlé de la constitution là-bas.
Vous avez?
Si on dit que les policiers maliens sont détruits de Mali, c'est vrai.
On vous entend très mal. Oui, les politiciens maliens. Oui.
Un parti qui est IRD.
Oui.
Il parle le droit pour un faux problème. Allô?
Oui, on vous, oui, parlez-moi vite pour qu'on vous comprenne.
Un grand parti comme IRD.
Oui.
Qui prend la loi comme un faux problème.
Qui prend l'argent?
La seule épouse qu'on voit ici, c'est IRD.
Oui.
La demande n'a jamais été IRD.
Oui.
Comme on compte sur IRD, IRD est en train de soutenir un programme qui n'a pas été vraiment propre. Allô?
Oui, on vous écoute, oui, allez-y.
Voilà, c'est ça que nous sommes. Un grand parti comme Adema, le président d'Adema est en train de soutenir quelque chose qui va de dépôt sur ça. Ça m'étonne beaucoup.
OK.
Voilà, c'est tout ce que vous dites.
OK, merci beaucoup, merci. Oui, on n'a pas bien compris la question de ce téléspectateur. Hein. Voilà, il aurait pu parler en langue bamanakan pour qu'on puisse mieux comprendre la portée de son intervention. Bonsoir. Oui, les téléspectateurs qui se bousculent au bout du fil et qui veulent rentrer en direct dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous êtes en direct sur Yoliba TV News.
Allô?
Oui, vous êtes... Bonsoir, vous êtes en direct.
Je suis... Allô? Oui, je voulais intervenir à l'émission, pas.
Oui, vous êtes en direct, allez-y.
Hein?
Vous êtes en direct dans l'émission.
Voilà, je peux aller.
Oui, allez-y, oui.
Vous voulez que je intervienne directement?
Oui, vous êtes déjà en direct. Quel est votre nom? Posez votre question.
Pas en soi une question.
Oui.
Voilà, moi, je voulais faire un petit commentaire parce que quand je suis une émission, je trouvais que le journaliste même a posé toutes les questions presque.
Oui, allez-y, oui.
Voilà, mais moi, je voulais laisser certaines ministres de l'invité.
Oui.
Parce qu'il a été, quand on a parlé de la religion personnelle, il a essayé de faire les comparaisons entre les différentes religions.
Oui.
Or, lui, il est dans un statut système qu'on appelle la démocratie.
Oui.
Lui, il passe de 74 à ce moment-ci, c'était un régime dictatorial et la constitution avait été suspendue.
Oui.
Et la lutte qu'on a menée par les gens qui ont été c'était de venir vers la démocratie. Allô?
Oui, on vous écoute, oui.
Voilà, c'était de venir vers la démocratie, c'était une évidence principale. Et il fallait venir dans le multipartisme.
Okay.
Et c'était quelque chose qui était pour tout le pays. Et tout le monde était d'accord à l'époque. C'était le vent.
D'accord.
Et là, on a organisé une conférence nationale.
Oui.
Voilà, c'est cette conférence nationale qui a adopté cette constitution.
Oui.
Et après d'avoir suspendu la constitution.
Oui.
Or, au moment où nous sommes. La constitution qui est là, nous avons eu des garde-fous parce que nous sommes dans un régime démocratique.
Oui.
Un régime pluraliste.
OK.
Qui avait donné des garanties vis-à-vis de la constitution.
Oui.
Donc, cette religion ne peut pas être comparée aux autres religions.
OK. Oui.
La preuve qu'on a donnée avec les assises nationales,
oui.
Ce n'est pas une approche qui peut être comparée à une conférence nationale où tout le peuple est là pour parler.
D'accord. Oui.
Voilà, donc c'est pour le dire que votre comparaison n'est pas raison.
Oui.
C'est qu'au moment où nous sommes, on est d'accord que ce régime qui est là n'a pas vocation à réviser la constitution. Parce que nous sommes dans des gardes démocratiques et pluralistes.
D'accord. Oui, on a compris votre.
Voilà.
Oui,
la constitution n'a pas été suspendue. Et de plus encore, le même pouvoir a ajouté une charte à la constitution. Et pour dire que lorsque la constitution ne reste pas, c'est la charte qui brille. Pourquoi on parle encore de vision de cette constitution avec tous les
gratuits à partir de la OK. Quel est votre nom? Rapidement, on a compris votre question. Votre nom?
Je parle aussi.
Votre nom?
Moi, je suis Issa Dambélé. Je suis à vous dire, j'appelle de Moti.
OK, Issa Dambélé. Merci beaucoup, Issa Dambélé. Merci. Et bonsoir à toute la population de la Venise malienne. On va peut-être prendre une dernière réaction, les téléspectateurs qui se passionnent pour ce débat autour de la nouvelle constitution, ce projet de nouvelle constitution qui continue d'alimenter toutes les discussions. Mais on va donner la parole à notre invité pour répondre aux différentes questions posées par les téléspectateurs dans la rubrique « Questions directes ». Ah, ce ne sont pas les questions du journaliste, mais ce sont les questions des téléspectateurs. Ouais.
Sauf que je crois que c'est plus des réflexions que des questions.
Oui, allez-y. Mais vous avez compris au moins ce qu'ils veulent
dire. Oui, ils veulent... Voilà.
Parce que c'est les deux
intervenants. M. Walid, M. Koulibaly, M. Dembélé pensent que, avec la constitution actuelle en vigueur, il n'est pas normal qu'on envisage une nouvelle constitution.
Oui, allez, suspendre.
Et qu'ils proposeraient qu'on suspende... Oui. On aurait dû suspendre l'actuelle constitution pour permettre... Je crois que c'est un débat. C'est la preuve que la constitution est une matière qui n'est pas que juridique. Okay. Elle est sociétale. Oui. Elle est, tu vois, les citoyens s'en saisissent.
Oui.
Mais ce que je voudrais dire, je l'avais dit, je le répète. Oui. Encore une fois, nous ne sommes pas en face d'une révision constitutionnelle. Oui. Auquel cas, l'article 118
peut être évoqué.
Peut être évoqué et produit tous ses effets.
Okay.
Nous sommes carrément dans l'élaboration d'une nouvelle constitution.
Okay.
Évidemment, c'est une question doctrinaire. Hein.
Oui.
Il y en a qui pensent qu'il fallait suspendre la constitution.
Oui.
D'autres pensent qu'on peut la maintenir et faire prospérer une nouvelle, l'avènement d'une nouvelle constitution.
Okay.
Je suis de cet avis-là.
Okay.
C'est un fait que l'actuelle constitution n'ait pas été suspendue. C'est une réalité avec laquelle il faut faire.
Oui.
Maintenant, vous ne verrez nulle part dans cette constitution en vigueur, celle de février 92, vous ne verrez nulle part où il est dit qu'on ne pourrait pas élaborer une nouvelle constitution avant la suspension de l'autre. C'est des questions d'interprétation.
Tout ce qui n'est pas interdit est permis.
Vous l'avez dit. Je pense que c'est une question d'interprétation. C'est une question, c'est une grille d'analyse des uns et des autres. Je comprends parfaitement leur...
Les propos
et qui sont justifiés. Hein. C'est une position qui est tout à fait compréhensible et respectable.
Oui.
Mais je pense qu'effectivement, on est dans le cadre d'une nouvelle constitution.
Oui.
Et de ce point de vue, je trouve que ceux qui sont là ont qualité pour engager une nouvelle, l'élaboration d'une nouvelle constitution.
Okay.
Maintenant, ils parlent de conférence nationale. Moi, je n'étais pas à la conférence nationale.
Mmh.
Je ne sais pas le niveau de légitimité que cette conférence a plus que...
Mais vous avez vu des images.
Les assises nationales.
Vous êtes un politique brillant. Vous avez certainement eu les droits aux archives.
Absolument.
Ah, oui.
Je ne sais pas. La conférence nationale a-t-elle eu plus de légitimité que les assises nationales? Je n'en sais rien. C'est un débat, comme je l'ai dit.
Oui.
Ça va dans tous les sens. Chacun a son opinion.
Oui.
Et ce n'est jamais une unanimité autour de ces questions-là.
Okay. Donc, pour vous, il faut y aller.
Je pense qu'il faut y aller.
Mais qu'est-ce que ça va, cette nouvelle constitution, va véritablement changer dans le quotidien, dans le vécu des Maliens?
Je dis que le Mali a des engagements internationaux.
Oui.
J'ai rappelé l'accord qui a été endossé par la communauté internationale.
Oui.
J'ai rappelé la directive de l'UEMOA,
oui,
notamment la création de la Cour des comptes,
oui,
pour permettre une meilleure transparence,
okay,
une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques.
Oui.
J'ai parlé de la remise en surface de nos autorités légitimes, le traditionnel et de nos légitimités traditionnelles.
Oui.
Tous les jours, il y a une querelle entre les familles,
oui,
on se transporte sur l'imam.
Oui.
Maintenant, on veut en donner une valeur constitutionnelle.
Oui.
Mais j'ai surtout dit que l'élaboration, de mon point de vue, en tout cas, c'est ma lecture, va donner le point de départ pour le retour à l'ordre constitutionnel que moi j'appelle de tous mes voeux.
Okay.
Il faut que notre pays sorte de la transition. Il faut que nous y travaillions.
Okay.
J'espère que les autorités, et je pense qu'elles sont dans ça, il est important que nous travaillons, que nous cravachons dur pour qu'en février
24,
on ait un nouveau président de la République élu, afin que le Mali revienne dans le conseil des
nations. Est-ce que vous avez, le politique brillant, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les conditions sont créées pour aller justement à des élections en février ou mars 2024?
Vous savez, je ne suis pas dans les organes.
Selon vos observations.
Mes observations, je n'ai aucun droit de douter de la volonté politique exprimée par les autorités. Le décret pour fixer les élections, la date des élections, le chronogramme des élections, ce n'est pas quelqu'un qui l'a pris, c'est le président Assimi Goïta qui l'a pris. Je pense qu'en prenant cette décision, il avait toutes les données dont moi je ne dispose pas. Il l'a pris en connaissance de cause et je vois que progressivement nous sommes en train d'y aller. La loi électorale a été révisitée. L'ège est créé. J'ai entendu son président dire qu'ils sont prêts. J'ai pas de raison de douter parce que j'ai pas d'éléments contraires. Je souhaite, et je crois que ça doit être le leitmotiv de tous les Maliens pour que notre pays aille à des élections le plus rapidement possible afin que notre pays retrouve sa place dans le concert des nations, parce qu'aujourd'hui notre pays est un pays.
Vous avez l'impression que le pays est isolé. Parlons de nos relations avec nos amis de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'entre le Mali et la CEDEAO, hein, quand je parle de la CEDEAO, je parle des chefs d'État de la CEDEAO et du gouvernement, des chefs d'État de la CEDEAO et du gouvernement, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que on est venu à... C'est la normalité, par exemple, de nos relations.
C'est le retour des grands amours. Non, il y a certainement des difficultés. Et tant que nous continuons à être dans ce régime d'exception... Nous aurons toujours des difficultés à parler à tout le monde.
D'accord.
C'est pourquoi
vous voulez clairement que voilà.
Il faut qu'on aille à des élections très rapidement.
Mais pour retrouver des
bonnes élections régulières, participatives. Il ne s'agit pas de bâcler. Il s'agit d'aller à des élections qui permettent à notre pays de reprendre le flambeau.
L'URD n'a pas encore un candidat, mais pour vous, le profil du futur président, ça doit ressembler à quoi? Qu'est-ce qu'il doit incarner?
Il doit incarner le patriotisme. Qu'il est le Mali chevillé au corps et au cœur. C'est ce Malien-là dont le Mali a besoin. C'est ce président-là dont le Mali a besoin.
Parce que les Maliens vont chercher ce président-là.
Absolument.
Qui va mettre le
vous
pays
savez,
sur les rails.
Une des réussites, si réussite il y en a, de cette transition, c'est l'éveil des consciences. Vous avez vu, tout le monde participe au débat public. Les réseaux sociaux aidant. On nous dispute même, nous les acteurs politiques, l'espace public et le débat politique. C'est la preuve qu'il y a une espèce d'éveil de conscience des citoyens qui, je suis convaincu, voteront la prochaine fois, pas pour des 2 000 francs et des 5 000 francs, mais pour un Malien en capacité de leur donner espoir et confiance.
La relation me signale qu'on a fait une heure, et ça passe vite quand on a un interlocuteur comme Mamadou Abdoulaye Diko, ça passe vite, secteur politique du parti de l'URD, le parti de Feu Sommet, la CC, l'Union pour la République et la Démocratie. Si vous avez un message aux Maliens et aux Maliennes qui nous regardent ici, Maliens de l'intérieur, Maliennes de l'extérieur, vous avez 2 minutes face caméra pour parler aux Maliens.
Le message, c'est un message d'espoir, d'espérance. Notre pays est aujourd'hui exsangue. Il a des difficultés, mais les difficultés font partie aussi des parcours d'un pays et même d'une personne. J'ose espérer qu'avec la conjugaison des efforts, avec le patriotisme que les uns et les autres proclament, s'il est réel, il n'y a pas de raison que notre pays ne sorte pas grandi de cette épreuve-là. Aujourd'hui, il y a des problèmes, c'est incontestable. En face, il y a des Maliens et des Maliennes qui réfléchissent aux solutions. Chez nous, nous sommes dans ça. Sur toutes les questions majeures, nous les analysons. Nous prenons position et nous le rendons public. Ce patriotisme doit être porté par chaque Malien. Et je crois au génie malien. Je suis convaincu que notre pays a des ressorts, a des ressources, a des recettes pour rebondir. Il s'agira simplement, en particulier les autorités, c'est elles qui doivent créer les conditions d'une meilleure participation citoyenne à la marche du pays. Nous sommes dans une période extrêmement difficile, il faut le reconnaître, mais je suis convaincu par la persévérance, par le génie qui est celui des Maliens, notre pays va rebondir et étonner le monde.
Ok, notre pays va rebondir et étonner le monde. Ce sont là les derniers mots de notre invité, Mamadou Abdoulaye. Abdoulaye Diko, merci de partager. C'est un plaisir
moi aussi,
de partager cet entretien.
Je voudrais
avec
vous remercier très sincèrement. Vous êtes là tous les jours dans... l'animation du débat politique, du débat public. À travers ça, vous contribuez grandement à la démocratie et à la pluralité du débat. Je vous en félicite et vous remercie.
Merci, c'est partagé. Merci. Et venez ici hein, quand vous le voulez. Hein, c'est chez vous ici à Djoliba TV News. Nous ferons notre partition, nous jouerons notre partition dans la construction du débat politique, du débat démocratique, la construction aussi du projet démocratique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté.
Liberté.